Bonjour à toutes et à tous. Le chantier thématique donc qui nous occupe cette semaine, c'est la vie privée. Et comme habituellement, nous croiserons les regards et les approches jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, précarité, vie dehors et rapport à l'intimité. Hier, à l'occasion d'une des nombreuses discussions de bureau, l'un d'entre nous affirmait qu'il ne faut jamais partir de soi, que c'est la base, que ce n'est pas intéressant, Marie. Et comme souvent, j'étais d'accord, alors que j'agis et pense précisément à l'inverse. C'est partant de moi, partant de nous, qui chaque jour, sans exception aucune, croisons dans la ville des visages, des êtres, des corps qui mangent, boivent, parlent, se droguent, dorment sur les trottoirs sales et bruyants. C'est partant de ce quotidien que je pense avec plus d'acuité certaines questions politiques cruciales qui traversent notre temps. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de les penser sans éprouver concrètement ces situations. Cela veut dire que dans ce cas précis, et même si cela biaise mon jugement, voir chaque jour, depuis des années, des vies s'échouer de précarité, toutes formes confondues, en bas de chez soi, façonne l'existence et intime radicalement à ce que soit repensée notre place et notre parole. Il est 14h passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Une des nouveautés de cette rentrée, c'est la rubrique 5 fois qui fait entendre en fin d'émission 5 récits en lien avec notre chantier thématique. Cette semaine, Inès Duperron a poussé la porte du fameux cabinet du Luc, rue du Louvre à Paris. La détective Martine Barenne a en rien bousculé le sacro-saint secret professionnel pour nous parler de son métier. Aujourd'hui, elle évoque la bonne forme physique nécessaire, une affaire de retrouvailles et plein de tact. Tendez l'oreille vers 14h50. C'est le deuxième moment d'une série d'émissions consacrées à la vie privée. Aujourd'hui, l'on se demande d'une part comment la vie dans la rue, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, modifie le rapport à l'intimité, mais aussi comment cette intimité est envisagée et prise en compte, est pensée par ceux qui aident, par ceux qui regardent, par ceux qui rejettent, par ceux qui accueillent, au contraire, ces personnes-là. Les sans-a, sans-abri, sans-attention, sans-argent, sans-amour, et la liste continue. C'est ainsi que les décrit le média en ligne sans-a.fr dans la thématique du mois est consacré précisément à l'intimité dans la rue. Louise Sébille Vigneault, vous êtes rédactrice en chef de ce média d'impact. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Vous avez notamment rédigé pour ce volet le portrait de Jean-Claude qui vit dans la rue à Paris. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Julien Beller, bonjour et bienvenue. Vous êtes architecte, vous êtes en charge du projet du centre humanitaire qui ouvrira en octobre, fin octobre, c'est ça, à Paris?
Exactement, peut-être un petit peu avant.
Peut-être un tout petit peu avant, parce que vous êtes plus rapide que prévu.
Parce que l'urgence est là.
Et en tout cas, ces pensées, je l'ai lu tout à l'heure comme une sorte de palliatif à la rue. Ça aussi, ce sera assez intéressant de revenir à cela. Faisal Romsi, vous intervenez auprès de personnes à la rue, notamment avec l'association Entraide Citoyenne. Ça fait quelques temps, quelques mois, c'est ça ?
Quelques mois.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Et Evangeline Masson-Diaz, vous intervenez à travers différentes associations, aussi auprès de populations diverses, mais notamment des populations roms et diverses personnes en situation migratoire. Et vous avez participé récemment à une enquête commandée par l'UNICEF, fondée sur 61 entretiens individuels et collectifs avec des mineurs non accompagnés et sur différents sites, Sète, Calais, Grande-Synthe, Angres, Noranfonte, Steenvoorde, Tattinghem et Cherbourg. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Là, j'ai deux bouteilles de gaz, les grosses, de l'huile, on a des boîtes d'haricots. Là, il y a les bananes qu'il m'a données là-bas. Là-dessous, il y a les tomates avec un avocat. Et l'avocat, il faut le balancer. Hein. Là, on a des patates avec des navets. Là, c'est quoi ça? Des carottes. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a les fourchettes en plastique, il y a les gobelets, il y a tout. Même les... Oui, il y a tout. Ah bah le Cali, c'est plutôt pour lui, là. Le chien, Rocky. Mais il y a toutes mes affaires, et puis il y a un sac de bouffe pour lui, un sac de croquettes comme ça. 20 kilos à peu près. Il y a une poêle, il y a le barbecue à bord, il y a là-bas. Ah bah la table et les chaises. On fait à manger, on fait les barbecues, on fait tout. Là, il y a les affaires, là, il y a du pinard, évidemment. Là, il y a les cigarettes, là, il y a mes couteaux, il y a tout, quoi. C'est les gens qui m'ont rapporté tout ça. La table, c'est lui qui l'a ramené de je sais pas où, du reste. Mon lit, bah, il vient de la rue, là. Il m'a appelé et tout. Je connais tout le monde. Du moins tout le monde, je connais pas tout le monde. Mais... Je m'en connais un beau paquet. Ils donnent des sous, ils donnent des cigarettes, ils donnent. Ouais. Lui qui a la moto, tu vois, plomberie et chauffage, lui m'a apporté une boîte de foie gras comme ça avec une bouteille de champagne. C'est pas la merde.
C'est l'une des trois facettes que prend le portrait de Jean-Claude. Sur le site sansa.fr, il y a une photographie, des photographies, votre texte et puis ce son. C'est un son que vous avez présenté comme étant Jean-Claude qui présente son coin. Hier, Michel Perrault, l'historienne, disait, on entendait dans l'archive, elle disait à quel point la question de la vie privée et de l'intimité était liée au fait d'avoir un coin à soi. C'est quelque chose qui a été important dans votre rencontre avec Jean-Claude, que sa vie privée soit liée avec la description de ce lieu ?
Oui, complètement. C'est-à-dire que quand on est arrivé pour rencontrer Jean-Claude la première fois, il nous a sorti des chaises, il nous a dit de nous asseoir, on avait vraiment l'impression d'arriver chez lui. Et comme ça fait 30 ans en réalité qu'il est sur ce même bout de trottoir rue de Meaux, près de la station Jaurès à Paris, on pouvait pas si bien dire. Enfin, c'est-à-dire, il est effectivement chez lui, c'est son trottoir, c'est chez lui, et les gens lui reconnaissent aussi la place, cette place dans le quartier.
Le fait qu'on puisse décrire comme ça un endroit à soi, Julien Belair, aussi par exemple avec le travail que vous avez mené avec le collectif Existe, c'est quelque chose que vous avez rencontré dans la parole qui vous était adressée en tant qu'architecte ou en tant que citoyen qui venait à la rencontre des personnes ?
Oui, je dirais que dans mon parcours, le bout que vous citez avec le collectif Existe, c'était plutôt de trouver une place à nous plutôt qu'à soi. C'est vraiment un travail sur le en commun et sur le en commun du petit groupe qui peut habiter un endroit. C'était plutôt comme une tribu que comme une personne qui cherche son intimité. Et du coup, c'était un travail de groupe qui essayait de revendiquer quelque chose d'assez fort. C'est vrai que quand on habitait dans nos installations avec le collectif Existe, on était souvent à la vue des autres. Donc je suis pas sûr qu'on puisse parler d'intimité, même si c'est un jeu hein, qui est un peu compliqué. Est-ce que j'arrive à trouver de l'intimité même quitte à être vu par les autres. Voilà, je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir débattre et qui existe. On jouait vraiment de ça, quitte à se montrer et à montrer l'intimité dans l'espace urbain pour montrer que la ville est habitée.
C'est exactement, et bien sûr la question qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne parlons que d'espaces qui sont en vue, même si dans ces espaces en vue, il y a des possibilités de se cacher. Donc la question c'est comment est-ce que cette intimité existe malgré tout. Revenir sur cette question du portrait avec Jean-Claude, ça passe aussi par le fait de pouvoir raconter sa vie. Ça c'était une demande qui s'est peut-être formulée de votre part, Louise, ou est-ce que c'est venu de lui ? Comment ça s'est passé ?
C'est-à-dire qu'on l'a rencontré un petit peu par hasard, comme à chaque fois qu'on fait nos portraits, on tombe sur des personnalités très fortes, très intéressantes. Et donc Jean-Claude, quand on est arrivé chez lui, on lui a expliqué notre démarche, on lui a dit qu'on voulait consacrer un mois thématique donc sur la question de l'intimité dans la rue. Et puis il a commencé à nous raconter tout ce qui... Ce lien qu'il avait avec cette rue, la rue de Meaux, tous les gens qu'il connaissait, les riverains... On s'est rendu compte très rapidement qu'en fait tout le monde venait le voir et donc qu'en réalité il était chez lui mais qu'il y avait aussi une violation de cet espace constamment en réalité. Donc lui ça le dérange parfois, il nous l'a rappelé après, hein. Il nous a dit parfois c'est emmerdant parce que les gens viennent me voir, j'ai pas forcément envie de leur parler et puis il y en a c'est pas des cadeaux. Voilà. Donc on était dans un double, on voyait bien en réalité qu'il était chez lui mais on voyait bien aussi que c'était très compliqué parfois à gérer parce que c'est ouvert, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre.
Mais pourtant, ça semble assez précis dans sa parole, la manière dont il délimite l'endroit qui relève de sa vie privée, qui relève de son intimité, même si en effet, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de frontière.
Oui, on peut dire que c'est son petit chez lui. Il y a, on va dire qu'entre le caddie et le matelas de son pote Vinay qui vient de temps en temps, qu'on a appelé le coloc un peu dans le portrait, oui, il y a un espace jusqu'à l'arbre qui est en face. Et effectivement, comme Jean-Claude passe essentiellement ses journées assis sur son lit puisqu'il a du mal à marcher, on peut dire qu'effectivement c'est assez délimité, mais... Lui, il dit tout simplement oui, que c'est chez lui, quoi. C'est chez lui.
Faisal Romsi, quand vous faites des maraudes avec Entraide Citoyenne, la question du récit de la vie privée, elle se pose comment aux personnes que vous rencontrez ?
Alors, on essaye de ne pas être intrusif. C'est très important parce qu'ils peuvent nous soupçonner de voyeurisme. Et donc, on essaye de prendre contact progressivement. Et c'est eux qui nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter. On se transforme parfois en conseillers conjugaux. On essaye d'apaiser quand ils vivent en communauté, quand il y a des tensions. On essaye aussi de faire, de nous adapter. Parfois, il y a une drogue qui fait des ravages auprès des sans-domicile fixe, le crack, qui les rend émotifs, à fleur de peau. Et on s'adapte, on essaye d'apaiser les tensions. Et oui, on prête une oreille attentive. Il y a des cas de déprime. Il y a des couples qui... C'est une descente aux enfers à deux. On les aide pour tout ce qui est démarches administratives. On leur sert un repas chaud, bien sûr. Mais aussi, on prête une oreille attentive à leurs problèmes.
Évidemment, dans le cadre d'enquêtes comme celle que vous avez menée, Évangeline, la question du récit de vie, du récit de la vie privée est au cœur, j'imagine, des questions que vous posez et des réponses que vous recevez. Pareil, de quelle manière est-ce que vous trouvez la juste présence, la juste écoute pour en même temps recevoir ces récits de vie privée et ne pas être intrusif ?
Je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qui se livrent avec le temps. Et avec la régularité de la rencontre, d'autant plus avec les gens de la rue, avec les migrants, on est sur un profil un petit peu différent parce que l'errance a pu être moins longue et donc moins destructrice. Nous, nos entretiens...
Moins destructrice pour les personnes qui sont en situation migratoire qui ne restent peut-être parfois que quelques semaines, entre guillemets.
Oui, la rue abîme. Et plus on reste longtemps à la rue, et plus on peut tomber dans une destruction de soi, mais aussi dans une destruction de son discours et de son parcours et de son histoire et de son vécu, et dans une réécriture de son histoire. Je pense que les rôles sont un peu différents pour des bénévoles ou des maraudeurs. On accueille cette histoire en général. On n'est pas là pour juger ou choisir ce qui est vrai ou pas vrai. Sur des enquêtes ou des travaux sociologiques, c'est un peu différent. On doit essayer de décrypter le vrai du faux. Concernant l'intimité et le récit de vie, ce qui est, je pense, aussi important, c'est l'intime, ça veut tout dire et rien dire pour ces personnes-là. Ils ont leur propre définition de leur intimité. Tout le rapport au corps, à l'hygiène, aux toilettes, aux douches, peuvent être limite publiques, que ce soit les bains publics, le mot en tant que tel signifie tout ce que ça veut dire, ou les personnes qui peuvent être amenées à déféquer dans la rue ou à aller aux toilettes derrière les voitures. Mais ensuite, il y a tout l'autre, le soi, il y a le chez-soi visible et le chez-soi mental qui se construisent. Et je pense que là, c'est vraiment très important de ne pas rentrer, de ne pas être intrusif dans cette intimité qui se reconstruise. Ensuite, sur les migrants, je pense que c'est un petit peu différent. Nous, le but de l'enquête, c'était vraiment d'essayer de dresser des parcours qui puissent nous raconter leurs histoires, leurs venues, les risques, les situations de traite quand il y en a eu, et ce à quoi ils aspiraient, ce vers quoi ils se projetaient, ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Il y a une manière très facile de raconter pour des situations difficiles, c'est « j'ai un ami qui ». Et on sait souvent que derrière cette phrase « j'ai un ami qui », on parle de soi sans parler de soi. Et c'est une très bonne périphrase pour se dire l'un et l'autre beaucoup de choses, en fait.
Que ce soit du côté de celui qui écoute ou que ce soit du côté
de celui qui... Est-ce que tu connais quelqu'un qui y comprend, a priori, qu'on lui pose la question indirectement ?
Quand on construit des endroits pour vivre, que ce soit vivre longtemps ou vivre un peu moins longtemps, Julien Belair, quelle est la proximité que l'on se doit d'avoir avec justement ces récits de vie ? Quelle est la conscience que l'on a de ces vies privées, de ces vies abîmées, de ces vies intimes ?
Ah, oh là là, question bien compliquée, ça dépend beaucoup des projets. En fait, il y a des projets qu'on fait avec des gens qu'on prend le temps de connaître. Ça m'est arrivé notamment avec les populations roms, roumaines, à Saint-Denis, où j'habite, et j'ai pu passer des années avec eux avant de faire, et du coup ajuster les projets au fur et à mesure de leurs besoins et de la nécessité un peu générale. Le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, de mise à l'abri temporaire, je prends pas des situations particulières, mais je prends un petit peu des cas généraux et j'essaie de traiter une sorte de consensus, même si c'est pas un mot que j'aime, mais on va dire qu'on essaie de quand même de traiter les problématiques du quotidien, les problématiques du bien-être, les problématiques de se reposer, les problématiques de se sentir accueilli.
Et elles vous arrivent comment, ces problématiques-là ? Vous les entendez ? Vous les piochez où ?
Elles nous arrivent de la part d'Emmaüs Solidarité, hein, pour qui je travaille déjà, qui gère quand même un certain nombre de centres d'hébergement, qui est proche des publics. Donc bien sûr, moi j'ai rencontré aussi, dans mon parcours professionnel et de vie privée, grand nombre de personnes, entre guillemets, en situation de précarité, qu'il s'agisse de gens du âge, de Roms, d'habitants dans les pays du Sud. J'ai beaucoup travaillé en Afrique noire. Et donc, moi, j'essaie de travailler avec mes outils, qui sont ceux de l'architecte et pas de l'anthropologue, même si je me penche de la façon la plus sérieuse sur le comment habiter, sur l'importance de l'homme et, comme je disais, de se sentir bien. Donc, c'est vrai que je vais pas faire des enquêtes, même si ça peut m'arriver sur des plus petits projets, mais sur ce projet, je vais pas pouvoir faire des enquêtes et en tirer, on va dire, la réponse. Et la réponse, elle est un peu générique, et elle est aussi portée politiquement. Je pense qu'il faut oser dire ce mot. Le projet qu'on fait aujourd'hui, il est porté par la mairie de Paris, par l'État, par Emmaüs, par toute une série d'associations, qu'il s'agisse du SAMU social, de Médecins du Monde, etc. Donc l'idée, c'est de piocher un petit peu les bons ingrédients à droite, gauche, et d'arriver à en faire un plat qui est consistant et bon.
Bon, la douche, tu peux la prendre de 20 minutes au maximum, si tu as été moins connu. Et s'il n'y a pas trop de monde, tu peux rester une heure, non, la poutre. Tu peux pisser tranquillement, tu peux, si le mec a des envies sexuelles et puis se brûler, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a même des mecs qui chantent là-dedans. Et s'il y a trop de monde, et ben, comme je ne suis pas à la bourre, comme je ne suis pas un emploi du temps chargé, ben, je repasse une heure, deux heures après. C'est assez intéressant parce que quand on est 24 heures sur 4 dehors, ça veut dire donc quand ça gagne un petit peu, de prendre une bonne douche au chaud, de prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, même des fois une heure, ben, ça réchauffe. Maintenant, je vais prendre ma douche tranquille.
Bruit de douche, vous disiez à l'instant, Évangeline, qu'il y avait cette question du soin, du rapport au corps, du rapport au fait de se laver. C'est un autre portrait qui vient du site sansa.fr. C'est la voix de Pierrot dans un bain public. Comment est-ce que vous vous retrouvez, Louise, avec votre équipe, à justement arriver jusqu'à ce niveau, peut-être pas de vie privée, mais d'intimité, pour que cette porte-là, elle vous soit ouverte?
Alors, Pierrot nous a proposé, par exemple, m'a proposé de l'accompagner au bain-douche pour me montrer vraiment comment ça se passait. L'avantage, c'est que dans ce bain-douche, il n'y avait pas trop de problèmes, en tout cas pour prendre du son. Hein. On n'a pas pris de photos, on n'a pas filmé, il n'y avait pas d'équipe en soi, il y avait juste lui et moi. Et on s'est posé sur les bancs en face des cabines. Et puis après, il m'a dit, je vais aller prendre ma douche, etc. Et moi, je me suis pas approché, je suis pas allé dans sa cabine de douche, évidemment, non. Mais j'ai juste pris du son un petit peu plus près pour entendre les bruits d'eau et de douche. Mais par exemple, dans ce même papier, il y a aussi Denis qu'on a rencontré et qui, lui, se lave dans la fontaine du rond-point de Place d'Italie. Bon, évidemment, on respecte son intimité, on va pas le suivre au moment où il se lave. Et justement, en plus, lui dénonce... explique la difficulté de se laver aux yeux de tout le monde et les regards et les moqueurs des passants qui sont sur le rond-point dans le petit parc et qui se moquent de lui quand il enlève son caleçon pour se laver, parce qu'il est bien obligé au bout d'un moment d'en arriver là.
Vous, quel est votre... puisque vous parlez d'un média d'impact, donc vous entendez avoir évidemment tout ce qui est écrit, dit, pensé, lu a un impact, mais vous le formulez. Lorsque vous faites ça, vous le faites avec quelle arrière-pensée? Le fait de pouvoir faire entendre ces lieux, de pouvoir photographier ces personnes, de pouvoir écrire sur elles?
L'idée de Sansa a toujours été de casser un petit peu les préjugés envers les personnes en situation de précarité. Donc c'était montrer une réalité... sur lesquels les médias ne s'attardent pas trop en règle générale, parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas forcément très vendeur. Nous, on a voulu s'intéresser au quotidien de la rue, de ce qui se passait, et pour essayer de dépeindre la réalité de ce qui se passe. Sur l'intimité, il y a quand même des gros problèmes, hein, je trouve. Parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont conscience qu'il y a une intimité qui leur est enlevée en étant à la rue, qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ou que, par exemple, quand une femme essaie de faire pipi dans la rue parce qu'elle n'a pas trop d'autres moyens, elle se fait mater ou elle se retrouve avec des regards pervers autour d'elle, elle ne l'a pas demandé. Hein. Elle a juste besoin d'aller aux toilettes. Donc voilà, toutes ces choses-là, il faut le dire. Je pense que c'est important de s'y attarder. Notre démarche, elle est pas, on viole pas l'intimité des gens, on respecte ça. On va pas trop loin. Juste, on a quand même besoin d'aborder ces sujets parce qu'il y a énormément de manques, je pense, au niveau des structures, pour permettre aux gens d'avoir un petit espace quand même et des petits temps de répit à côté de la rue.
On a eu pas tant de facilité à trouver du point de vue de la recherche, de la parole de la recherche, des personnes pouvant s'exprimer sur la question de la vie privée et de l'intimité, que ce soit des personnes en situation migratoire ou des personnes à la rue depuis très longtemps sans domicile fixe. Est-ce que cela reflète une réalité de la recherche en France, de ce que vous entendez ou vous rencontrez dans vos lectures, ou est-ce que c'est juste pas de peau pour l'équipe des Nouvelles Vagues ? Je m'adresse peut-être spécialement à vous, Évangeline.
Alors, je ne sais pas si ça reflète une réalité du côté de la recherche. Ce qui est sûr, c'est que du côté des acteurs et des intervenants, c'est un peu un tabou. Entre autres, la question de la sexualité des personnes à la rue. Très peu de gens en parlent. On va être sur les besoins primaires, se laver, se nourrir, dormir, soigner, avoir chaud, être à l'abri. Mais dès qu'on va parler d'autre chose, avoir des sentiments, avoir une envie, pouvoir dire non, pouvoir dire oui, avoir une relation sexuelle, avoir une relation amoureuse, il n'y a plus grand monde, soit pour agir, soit pour penser, soit pour accompagner. Ça, je pense que c'est une réalité et je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Parce que c'est aussi plus difficile. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de l'intime, comme vous le dites. C'est quand même important de rappeler, je pense qu'à la rue, il y a tous les profils possibles et imaginables à l'image de la société française dans sa grandeur et sa largeur. Donc il y a des gens très abîmés, il y a des gens ravagés, il y a des gens détruits, il y a des gens qui tiennent le choc, il y a des gens qui font des passages à la rue, des intermèdes, il y a des gens qui vivent un moment, qui en sortent, qui en reviennent, qui vont dormir chez des amis, qui vont dormir chez des proches, qui vont dormir à l'hôtel, qui arrivent à maintenir, un certain équilibre très précaire et très instable, un équilibre de survie. Mais ça nécessite autre chose. Et je pense que la question du rapport au plus profond de l'intime et à la sexualité n'est quasiment pas pris en compte aujourd'hui et pas accompagné comme cela se devrait, en fait. Mais tout public, hein, c'est même si on extrapole aux migrants, on est encore en capacité de penser à un accueil pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. À Calais, l'hébergement pour les femmes. Les femmes peuvent être accueillies avec leurs enfants sans leur mari. Rien que pouvoir penser ça, c'est quand même dénaturer complètement les structures et les vies que les gens se sont construits, en fait.
Et les liens ? Julien Belair ?
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, il y a grand nombre d'urgences aujourd'hui en France. Voilà, il faut arriver à loger les gens, il faut arriver à manger, il faut arriver à avoir chaud en hiver. Et je pense que les problématiques sont telles que malheureusement, ce sujet qui est l'intimité, qui est le bien-être, qui est le bien-vivre, il arrive après.
Mais est-ce que c'est une bonne façon de prendre les choses en termes de...
Pas du tout. Je veux dire, moi, en tant qu'architecte, je gère un global. Je vais gérer le tout, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'intimité dans les projets. Mais bon, j'ai envie de dire, on peut entendre que les combats arrivent les uns après les autres.
Vous l'entendez, par exemple, le fait qu'on puisse dire, en effet, on n'est pas forcément en capacité de penser en même temps une place pour un lien familial, hein, puisque c'est ce qu'on entendait aussi. On parle de sexualité, oui, mais on parle aussi de qu'est-ce que c'est que d'être une petite famille ou une plus grande famille.
La première chose, mais bon, je prône pour ma paroisse, mais je pense qu'il faut loger les personnes dans des conditions dignes. À partir du moment où les personnes sont logées dans des conditions dignes, elles vont pouvoir se reconstruire et on va pouvoir aller sur ces sujets qui sont effectivement tout aussi importants. Sur ce que vous citiez, c'est vrai que moi, ça m'a presque choqué au départ de la commande quand on me dit il va falloir héberger...
De la commande pour ce centre.
Pour ce centre de mise à l'abri temporaire, on me dit c'est que pour des hommes isolés. Je dis waouh. Eh ben, ça c'est d'après des retours d'expérience des associations qui se rendent compte qu'il y a beaucoup d'abus entre les hommes et les femmes et les enfants et que
d'abus sexuels, de violence, tout
ce qui est barbare, je dirais, et qu'ils n'arrivent pas à le contrôler. Et du coup, la seule réponse qu'ils ont pu donner, c'est de dire, on va devoir séparer les publics. Ils séparent pas les familles. Je veux dire, quand il y a une famille composée et que c'est sûr que c'est une famille, elle va aller dans un centre adapté aux familles.
Donc là aussi, en fait, on entre aussi très profondément dans la vie privée. Oui, lorsque vous dites c'est sûr que c'est une famille, ça veut dire qu'il faut poser des questions très précises.
Quand les gens vont se présenter à l'accueil, il va falloir comprendre qui ils sont pour savoir à quel dispositif ils ont le droit, à quel statut administratif ils ont le droit. Et bien souvent, c'est des histoires de vie et des histoires personnelles.
peut-être sur ces questions-là de vie sexuelle, de vie affective, puisque à la fois ça revient hein, dans les portraits, que ce soit celui de Jean-Claude ou d'autres, ou dans les parcours de vie que vous rencontrez, Faisal.
Oui, alors... Alors, bien sûr, les migrants, c'est une problématique différente. J'ai remarqué que...
Pour ces questions de durée, si on essaie d'être un peu précis, quand vous dites que c'est différent parce que c'est moins de temps.
Et puis, l'intimité qu'on nous raconte est différente. Par exemple, l'intimité d'un migrant, pour un maraudeur, pour un bénévole, ça sera quand il acceptera de nous montrer des photos de sa famille sur son téléphone portable. Quand il acceptera de nous raconter sa traversée, et notamment les traumatismes qu'il subit en traversant la Méditerranée. Ça, c'est l'intimité du migrant. Et j'espère d'ailleurs que dans le camp, il y aura une bonne Wi-Fi, et il y aura des branchements pour qu'ils puissent recharger leur portable, parce que c'est le portable est le lien avec leur famille. Et ils se les font souvent voler, donc j'espère qu'il y aura aussi des casiers. Et voilà, donc c'est leur lien avec leur famille qui est restée au pays, qui est restée en Afrique. Donc c'est ça l'intimité du migrant.
Alors c'est peut-être un peu difficile de parler de manière aussi générique en disant l'intimité du migrant, oui. Mais j'imagine que vous rencontrez aussi d'autres personnes dans ces maraudes, dans ces parcours d'entraide citoyenne. Comment affleure la question de la vie affective, la question de la vie sexuelle, la question de la vie amoureuse, la question du lien familial?
Alors, pour vous donner un exemple, on était dans les voies souterraines des Halles. Il y a ce qui s'appelle un village. Donc, c'est un espèce de bidonville. Et il y a des couples.
Alors, soyez plus précis, les voies souterraines des Halles, c'est quoi?
C'est...
À Paris, donc?
Donc, à Paris. C'est des voies pour traverser sous les Halles. Et ils se sont installés là. Et on appelle ça le village, en fait. Et donc, il y a des liens d'amitié, il y a des gens qui sont quasiment mis sous tutelle, avec des caractères forts qui s'occupent des autres, plus faibles. Et donc, comme je disais, il y a des couples, et on a eu une histoire de fausse grossesse qu'on a dû gérer, les accompagner à l'hôpital. On a parlé aussi de distribution de préservatifs, mais apparemment on est allé trop loin, parce qu'ils l'ont mal pris, ils ont dit qu'ils étaient fidèles. Donc voilà, il y a des choses comme ça... Il faut s'adapter, c'est à nous d'avoir les bons réflexes.
Ça veut dire que vous en parlez entre vous, entre les maraudeurs, pour justement trouver cette limite qui est-ce que oui ou non on va jusqu'à proposer des capotes, parler de sexualité, réfléchir à cet accompagnement de la grossesse ou pas? Ou est-ce qu'on n'y va pas? Ça passe par quoi en fait entre vous comme discussion?
Alors c'est, tout d'abord, le choix se porte sur celui qui a la meilleure relation avec le sans-domicile. Et quand c'est une femme, pour parler par exemple de serviettes hygiéniques, ça sera une femme, etc. Donc c'est surtout ça, c'est qui a la meilleure relation et qui pourra se permettre d'être intrusif. Et puis parfois on a des couples qui viennent ensemble et qui nous disent voilà, c'est mon amoureux. Et donc voilà, on parle d'amour, on parle de leurs projets. Et puis après on essaye de parler de leur sexualité, de voir comment ça se passe.
On entendait très brièvement Pierrot dans cet extrait où il est dans les bains-douches dire bah, s'il y a quelqu'un qui a envie de se branler, c'est possible. Et puis Jean-Claude, dans ce portrait, parle hein, de la manière dont il a continué à avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle sans nécessairement rentrer dans les détails. Mais en tout cas, combien ça existe dans son parcours. Vous étiez surprise d'entendre cela au regard de la manière dont justement cette vie intime, affective et privée est tue de manière générale?
Non, je pense pas. Bah, déjà, dans les, enfin, dans le rapport qu'on peut avoir quand on rencontre les personnes de la rue, globalement, quand même, moi, je trouve qu'ils se livrent quand même plus facilement, que, enfin, ils sont plus désinhibés parfois sur des récits intimes. Donc, parfois, c'est aussi plus facile qu'à des publics, disons, quand on est journaliste de communicants ou de politique, etc. C'est souvent beaucoup plus honnête, souvent beaucoup plus désinhibé. Et donc quand Jean-Claude nous a raconté qu'il avait continué à avoir des petites copines, bon, on ne sait pas vraiment hein, si c'est des relations sexuelles, on peut aussi se dire que c'est peut-être une amie, on sait, voilà. Mais voilà, il disait qu'en tout cas elle avait partagé son matelas et que les petits jeunes du coin qui connaissent bien étaient surpris dès le matin de voir cette belle femme qui partageait son lit. Bon, voilà, on peut pas savoir si c'est des relations sexuelles, voilà, mais en tout cas il avait envie d'en parler, il avait envie d'expliquer que oui, lui, il avait toujours eu des femmes autour de lui et que le fait d'être dans la rue, 30 ans de rue, il faut dire aussi qu'il faut s'adapter. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas s'empêcher de vivre non plus. On a eu d'autres personnes qu'on a rencontrées pour la réalisation de cette enquête qui nous expliquaient que voilà, ils ont des tentes, donc ils font l'amour dans la tente, ils essayent de pas faire trop de bruit, ils s'adaptent en fait au milieu, à l'environnement dans lequel ils sont. D'autres, on a rencontré un couple qui est à l'abri aujourd'hui, mais qui expliquait pendant leur un an de rue à deux, parce que c'était un couple marié, ils n'ont pas fait l'amour. Ils n'ont pas fait l'amour parce que ça les a bloqués. Ça les a bloqués et donc voilà, il n'y a pas une façon de gérer son intimité dans la rue. Il y a 1000 histoires, 1000 parcours et je pense qu'il faut s'attarder sur chacune d'entre elles en fait pour pouvoir comprendre un petit peu que c'est vraiment très compliqué de gérer sa vie intime dans la rue et que, mais qu'il faut quand même en parler.
Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont ressorties peut-être dans cette enquête auprès des mineurs, justement sur la question de la vie affective et de la vie sexuelle? Alors il y a notamment, d'après ce que j'ai lu, aussi la question des violences et des menaces sur leur sexualité, Evangeline.
Oui, on est face à des personnes qui sont dans une immense précarité et qui souvent, en tout cas pour les migrants des Hauts-de-France, du nord de la France, qui certains ont dû emprunter beaucoup d'argent ou s'endetter pour en arriver là. Donc oui, on est dans un univers violent. La rue est violente, l'exclusion est violente, le bidonville, le campement, on utilise le mot qu'on veut, est extrêmement violent. Ceux qui sont dans le nord de la France, leur rêve de L'Angleterre, ça reste extrêmement cher financièrement d'accès. Et quand on n'a plus d'argent, toutes les propositions et toutes les exploitations sont possibles. Ce qui entraîne forcément des violences physiques, de la part des passeurs, comme de la part des forces de l'ordre, ou de riverains à bout, on va dire, mais aussi des violences sexuelles, de la prostitution, qui peut être... et une prostitution contrainte où les femmes sont contraintes de se prostituer pour passer, et d'autres qui disent en tout cas dans leurs paroles si je me prostitue je passerai plus vite. Donc forcément la prostitution est une réalité à la rue, pas que chez les migrants, nous on l'a mis en évidence dans cette étude, comme aussi la pédophilie, comme les propositions, ça c'est à Paris, je crois que c'est assez récurrent en ce moment auprès de jeunes hommes ou de jeunes femmes, de je t'héberge contre tendresse, et derrière tendresse ça peut tout dire et ça peut aller très loin et ça peut être très violent. C'est une réalité aussi pour les enfants, on sait très bien qu'il y a de la prostitution de jeunes garçons à Paris.
Et j'imagine d'autant plus tendu que par ailleurs il y a une grande précarité affective, c'est-à-dire que tous ces parcours de vie, quand débarque le mot tendresse ou quand débarque le mot accueil ou quand débarque le mot échange contre douceur...
C'est deux choses différentes. Je pense que toute personne à la rue n'est pas en misère, n'est pas en manque de tendresse. Encore une fois, ça dépend vraiment des profils et des parcours d'exclusion, des histoires de chacun... Les parcours qui mènent à la rue entre une personne sans papier, une personne qui cherche à gagner l'Angleterre, une personne qui vient d'arriver en France et qui attend un rendez-vous à l'OFPRA, ou une personne qui est à la rue depuis plus de 30 ans et qui a un problème d'addiction alcoolique, voilà, ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont été abandonnés par leurs enfants, il y en a qui ont fait des années de foyer, il y a de tout. Et je pense que c'est encore vraiment important. Quoi. L'intime fait partie de soi, donc des histoires personnelles. Et c'est la difficulté de projets comme les villages ou les espaces de transition qu'on essaye de mettre en œuvre. On est obligé de penser à un schéma général pour des personnes qui n'ont rien à voir. Et même dans les migrants, on sait très bien qu'il y a tous les niveaux sociaux, d'études, d'expériences professionnelles, de parcours de vie, de niveau de vie, de nationalité, de religion. C'est pareil à la rue. Donc tout le monde n'est pas en misère affective, donc tout le monde ne va pas se réjouir de se faire proposer un hébergement contre massage, pour faire simple. Il y a de l'exploitation, vraiment il y a de l'exploitation contre promesse de passage. Il y a des femmes qui passent en Angleterre, dans le nord de la France, en se prostituant. Il y a tous les schémas. Ce qui est sûr, c'est que l'exclusion, ces zones de non-droit comme la jungle de Calais ou d'autres espaces de non-droit comme peut y avoir à Paris sous le métro aérien ou d'autres sites, où il n'y a plus d'intervention institutionnelle, où il y a une faible intervention associative, quels que soient les discours, c'est quand même des zones qui sont assez délaissées par les grosses associations, et même les petites associations ou les collectifs se sentent complètement débordés et dépassés par ce qui se passe, favorisent l'exploitation des plus forts par les plus faibles, favorisent des schémas de survie et d'exploitation, de traite, qui sont complètement tus et sous-étudié et sous-pris en compte. Voilà.
Peut-être avant de vous passer la parole, Louise, je vous voyais hocher la tête, Julien Belair, sur la question du consensus, c'est-à-dire à la fois faire avec des parcours de vie qui sont aussi hétérogènes que le sont tous les individus qui composent la société, et en même temps produire un lieu, un endroit, un village, un centre de mise à l'abri.
Ouais,
est-ce que c'était compliqué
Que ça l'est? Non, mais il y a un moment où il faut passer à l'acte. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est construire et oser et faire. Alors, c'est sûr qu'on est obligé de faire des compromis. C'est sûr que les gens ne se ressemblent pas. Par contre, avoir une douche, avoir des toilettes, avoir une chambre, on n'est pas 50 les uns sur les dessus, les uns sur les autres, c'est quand même des choses auxquelles on aspire tous. Donc il y a quand même, voilà, moi je réinvoque souvent mon métier, quoi. Je peux pas aller trop loin, mais au moins à travers les outils qui sont mis à ma disposition. Un truc aussi qui m'a fait hocher la tête, c'est cette question de la zone de droit. C'est vrai que même si dans mon parcours j'ai tendance aussi à, on va dire, à valoriser la ville informelle qui s'auto-fabrique, vu que l'État ne sait plus le faire.
Pourquoi pas en marge de ce droit ou en négociation avec ce droit?
En négociation, le vice de ça qui est incrémental, qui coûte moins d'argent, etc. Le vice, c'est qu'il n'y a pas de droit et du coup c'est les plus forts qui le prennent. Et du coup, il me semble essentiel, et c'est ce qui est tenté sur notre projet Porte de la Chapelle, de ramener du droit. Même dans la côté, de ramener de l'organisation et de, voilà, d'affronter les problématiques en petit à petit comme on peut, en mettant entre guillemets des règles qui vont épicher et empêcher que le plus fort fasse payer aux autres la nuitée, etc., etc. Enfin, tous les vices qu'on connaît à travers cette organisation informelle de la ville et de la survie. Je veux dire, il y a quand même un moment où il faut évacuer cette pseudo-mafia et redonner du droit et reprendre conscience, organiser pour que ça aille mieux.
Vous vouliez intervenir, Louise ?
Oui, mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est intéressant parce qu'effectivement, il faut agir rapidement sur la question des migrants. Mais donc, dans le même temps, on a les pouvoirs publics qui proposent donc la création de centres d'hébergement. Et puis dans le même temps, depuis des années, ça a toujours été le cas, les petits abris, les petites cabanes qui sont réalisées, qui sont construites par les sans-abris dans la rue, sont régulièrement détruites par des agents de la voirie qui sont de la mairie de Paris en réalité. Donc c'est drôle parce que en fait, quand on essaye de se reconstruire un petit chez-soi dans la rue, on l'a pas très longtemps, puisque voilà, les pouvoirs publics le détruisent. Et donc, dans le même temps, on construit aussi des choses. Donc, c'est
double discours. Surtout avec les Roumains en bidonville.
Voilà.
Je veux dire, quand tu as un quartier qui se construit en 2 mois, qui coûte rien à personne, qui est que fait avec des matériaux récupérés, je veux dire, bilan écologique, zéro carbone, les personnes s'abritent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont de place nulle part, on fait que les expulser. Donc ça, c'est une évidence que, à mon avis, il faut aussi trouver une justesse d'accompagner ces mouvements-là.
Et peut-être aussi une cohérence dans les décisions qui sont prises.
Oui, exactement, une cohérence. Mais il y a des problématiques d'incendie, de santé, de maltraitance. Et ben, allons agir même dans ces quartiers sur ces sujets. C'est pas pour autant qu'il faut tout démolir.
Moi, j'étais ici. C'est la petite chambre d'Amid, mais où il y a 2 lits. Donc on est à 2 dans celle-là. Bah, tout se ressemble parce qu'à chaque fois c'est des petits lits, c'est disposé pour que on puisse parler par exemple le soir, échanger, partager des moments, parler de ce qui s'est passé, de la journée dans la jungle, ce qu'on a appris, qui on a rencontré, donc un peu pouvoir toujours garder, c'est important ici toujours garder le dialogue en fait, surtout à l'intérieur de la jungle. On retrouve des choses dans la jungle qu'on trouvera pas ailleurs, la vie en communauté tout simplement. Vraiment de tous les pays ensemble, c'est rare de l'avoir en dehors avec une telle facilité à circuler, à rencontrer tout le monde. On fait ça avec facilité ici, il n'y a pas de barrière pour ça justement. C'est ça qui nous pousse à revenir, à passer du temps ici. Mentalement, c'est quand même assez dur, il faut quand même puiser pour toujours garder le sourire, tout ça. Et justement, l'avantage d'être en communauté, c'est que quand il y en a un qui a un coup de barre, l'autre est là. Et on parle justement, quand on est ensemble, justement, par exemple dans les pièces qui sont disposées, on peut en parler, on peut évacuer. Et le lendemain, on reprend un nouveau départ et on repart avec le sourire de bonne humeur.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the walk for a lead?
Juste avant les Pink Floyd, on entendait la voix de Bambino, qui est un jeune homme de Calais, du nord de la France, qui est un ami de Hamid, entre autres, et que Laure Adler avait rencontré dans la jungle à Calais lors d'une série d'émissions hors champ diffusées sur France Culture l'année dernière. Est-ce que, Julien Bellaire, vous avez regardé ce qui se passait du côté de Calais, et notamment ce qui avait été critiqué, c'est-à-dire ces containers blancs, ces formes d'habitat qui avaient été proposées, au moment où vous avez accepté de prendre en charge ce projet de mise à l'abri temporaire à Paris?
Oui. Depuis de nombreuses années, je m'intéresse à ces sujets, donc j'observe ce qui se passe, je vais voir. Qu'il s'agisse de la mise à l'abri à Tempelhof à Berlin, ou de la jungle à Calais, ou Grande-Synthe, ou même dans des pays en voie de développement, parce que souvent je considère que c'est là qu'on invente le plus. Oui, bien sûr, on a pris tout ça en compte, et je dirais que la volonté, qui n'est pas que la mienne, ici à Paris, était de faire quelque chose de généreux, quelque chose d'attentif, quelque chose de réglementaire, c'est-à-dire qu'on est un établissement recevant du public, on a toute une série de réglementations qui s'appliquent à nous, comme partout en France, que de temps en temps on déroge sur d'autres projets. Là, on entre dans le cadre réglementaire, et ça c'était quand même un enjeu important.
Comment ça se décline, le fait d'être généreux et attentif sur le plan architectural?
Ah, c'est des matériaux, c'est des espaces. Pour reprendre ce qui se disait tout à l'heure, là, il faut que les gens arrivent à partager des moments. faut que les gens arrivent à
c'est
avoir
ce que
des
tu
lieux
disais, Bambino,
exactement en voilà donc on a toute une série d'espaces un peu conviviaux, des terrasses extérieures, des réfectoires, des espaces d'accueil, on fait un petit terrain de foot simplement en marquant le sol. On fait des espaces paysagers, mais juste en mettant des arbres dans des big bags. Enfin, on essaie de faire preuve d'ingéniosité pour avoir un lieu qui est vivant, avec des espaces divers, variés, qu'il s'agisse de l'espace d'accueil sous la grosse structure gonflable, qui sera un objet aussi, qui se verra, qui est conçu et réalisé par Hans-Walter Müller, qui est un artiste. Donc ce sera un objet dont on peut être fier, qui sera visible. Donc l'espace d'accueil inconditionnel jusqu'à la chambre. On fait des chambres de 4 personnes qui seront des chambres construites en ossature bois, isolées thermiquement, acoustiquement, à l'abri des regards. Et sur le devant des chambres, il y a un perron. Donc sur le perron, on pourra s'asseoir. Il y a un petit sas d'entrée pour qu'on puisse laisser ses chaussures, faire sécher sa serviette. Donc c'est comme ça, à force de micro-solutions pour essayer de répondre à tous les besoins, du manger ensemble jusqu'au dormir ou se laver tout seul. En répondant un petit peu à tous ces points, on essaye d'y répondre de la meilleure manière et du coup, entre guillemets, d'être généreux. Pourquoi être généreux? Ça a été employé aussi par la ville de Paris et Emmaüs Solidarité, parce qu'en fait, on met pas des lits dans un gymnase. C'est quand même la solution un peu classique. Soit on ferme les yeux et on laisse un campement s'installer, se formaliser en périphérie urbaine, soit on ouvre des dispositifs qui sont pour l'instant plutôt des gymnases pendant un hiver, avec des lits les uns à côté des autres. Et donc là, on est vraiment entre la rue et le droit commun. Donc c'est en ce sens que c'est faire plus que le minimum vital.
Tout à l'heure, vous disiez quand vous avez été contacté, on vous a contacté pour n'héberger que des hommes isolés. Comment ça va se répartir sur cet endroit-là? Est-ce qu'il y aura aussi des femmes et des enfants? Est-ce que vous avez, j'imagine, aménagé l'espace autrement ou d'une manière que ces relations puissent avoir lieu et continuer?
Non, alors ce qui se passe, c'est que le projet qu'on fait, on appelle ça un dispositif de premier accueil, qui va être décliné en 3 pôles. Le premier, c'est le pôle accueil, qui est un accueil. Voilà, donc la structure gonflable avec des containers maritimes et du personnel qui reçoit ceux qui se présentent de façon inconditionnelle. Donc toutes les personnes pourront se présenter au pôle accueil. Soit, après cette étape, soit elles auront accès au centre d'hébergement à l'arrière, soit elles seront réaiguillées sur un centre adapté pour des familles, pour des mineurs isolés, etc. Si les personnes ont accès au centre d'hébergement qui est à l'arrière, donc c'est le troisième pôle, hébergement de 400 personnes, uniquement des hommes, elles ont aussi accès au troisième pôle qui est le pôle santé. Donc il s'agit de mettre en place un pôle de premiers soins avec des médecins, des psychologues qui permettent aux personnes de faire le minimum santé.
Est-ce que cette nouvelle circule, la construction de ce centre à la porte de la chapelle, est-ce que les personnes que vous rencontrez dans vos maraudes, dans vos études, dans vos dialogues, sont au courant et qu'est-ce qu'elles en pensent? Pareil, difficile d'établir de grandes généralités, mais est-ce que c'est quelque chose qui se sait?
Pas vraiment, non. Ils croient encore que...
Ils qui?
Les migrants, les Soudanais ou les Afghans qui sont à Stalingrad ou à Jaurès, croient que la France les a laissés tomber, en quelque sorte. Oui, on attend un petit geste d'Emmaüs Solidarité pour qu'ils nous entraînent dans le mouvement. C'est une idée géniale, hein, ce camp. Ce serait bien de les informer, en arabe de préférence, sur que la ville de Paris, que la France les a pas laissés tomber et qu'on va s'occuper d'eux et les traiter de façon digne. Ils attendent ça beaucoup.
Mais vous pouvez leur dire?
On n'est pas informé, on n'a pas, en tant qu'association Entraide Citoyenne, on n'est pas informé, on n'a pas été compris dans le mouvement. Donc quand on fait nos maraudes, on ne peut pas parler au nom d'Emmaüs ni de la ville de Paris. Donc
vous êtes pas alors que vous êtes sur le terrain, vous n'êtes finalement pas un relais ou qui serait une première information pour un éventuel accueil futur.
Ouais. malheureusement.
Je pense que ça va être fait. N'oublions pas que le projet, on n'en parle que depuis mardi dernier.
Bien sûr.
Avant, on n'avait pas le droit d'en parler, parce qu'il y avait des peurs de squats, de manifestations anti, etc. Ça fait qu'une petite semaine qu'on a
d'ailleurs,
le droit...
votre téléphone sonne.
Qu'on a le droit d'en parler. Donc j'espère que tout ça va se mettre en place au plus vite.
Oui, je tiens juste à apporter une petite précision sur le fait que c'est vrai que les femmes sont quand même vachement laissées à l'abandon, je trouve, dans ces dispositifs. Pour en avoir rencontré plusieurs pour la réalisation de notre enquête sur l'intimité, et aussi beaucoup de femmes donc sans papier, des femmes ici qui sont accueillies dans des très peu de structures. Hein, il y en a une à Aurore, par exemple, on fait une, la halte femme à Gare de Lyon. Mais ces femmes-là, donc, vous le rappeliez, qui se prostituent donc, pour avoir une nuit à l'abri ou qui se font régulièrement agresser, sont obligées de se cacher. Elles sont encore plus invisibles que les invisibles, c'est-à-dire les hommes. C'est beaucoup plus compliqué pour elle et vraisemblablement les structures d'accueil du coup ça va pas non plus trop se bouger trop dans les mois qui viennent pour elle et elles en ont enfin elles c'est vraiment très compliqué, je veux dire toutes celles qu'on a rencontrées étaient au bout du rouleau à se sentir vraiment délaissées et absolument pas aidées et encore plus si elles sont sans papier, bon voilà c'est encore plus compliqué, mais même des femmes sans abri on va dire avec papier née en France, etc. C'est très compliqué. Annie, par exemple, qu'on a rencontrée, qui est à la cinquantaine, nous disait qu'elle était en mode survie permanente dans la rue, que si chez vous, vous pouvez vous mettre une semaine en carapace dans votre lit ou dans votre salon, fermer la porte, quand tu es dans la rue, c'est 2-3 heures maximum par jour. La journée, parce que la nuit, faut marcher, faut pas dormir, parce que si on est une femme, on va se faire agresser. Donc je tenais à rappeler quand même que les femmes sont vraiment très très vulnérables dans la rue et qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites pour elles et vraisemblablement pour les migrants ça va pas trop s'arranger non plus.
Rapidement sur cette question-là, Évangeline, comment comprendre que cette question des femmes, en dehors du fait de le comprendre à l'intérieur d'une société globale où cette domination masculine et cette vulnérabilité de la femme est une réalité, comment comprendre que ces femmes-là ne sont pas ou peu prises en compte par ces dispositifs?
Pendant longtemps, l'homme isolé était majoritaire à la rue, donc on a cru que...
Il fallait s'occuper des hommes isolés.
C'est vrai que c'est les plus voyants, c'est les plus nombreux, et on a tendance à oublier qu'il y a des femmes, qu'il y a des familles. À un moment, les familles roumaines avec leurs enfants qui dormaient dans le centre de Paris, vers République et Bastille, il y a 2 ans, tout le monde a pris conscience qu'il n'y avait pas que les hommes isolés à la rue. Et aussi les mineurs isolés, nous c'est ce public sur lequel on s'est concentré à Calais, mais il y a beaucoup de mineurs migrants à la rue à Paris, de plus en plus. Ce sont les plus vulnérables, évidemment, femmes, enfants, mineurs. C'est une vraie réalité. Ça demande aussi une évolution des pratiques, ça demande une évolution des savoir-faire, de la connaissance du public. Les prises en charge sont différentes. La question de la mixité des publics que vous souleviez tout à l'heure, on ne peut pas mélanger n'importe qui, évidemment. Et il y a quelque chose moi, qui m'a souvent surpris, c'est que, dans une certaine mesure, on a l'impression, en tout cas quand on passe du temps auprès de toutes les personnes qui sont amenées à vivre un moment à la rue, que la pauvreté et que l'exclusion a évolué beaucoup plus vite que les interventions associatives et que les politiques publiques. Et il y a un vrai temps de retard qu'on essaye de rattraper avec des expériences, des alternatives, des choses intéressantes. Mais je pense qu'on est vraiment au début de l'innovation sociale sur ce champ-là.
Et peut-être aussi au niveau d'innovation d'espace et de construction.
Sociale, architecturale, anthropologique, sociologique, tout. Et j'ai envie de dire, on est tous responsables de cette prise de retard, les militants, les bénévoles, les collectifs, les associations, les politiques.
Vous mettiez les politiques en dernier.
C'est pas un hasard.
Ouais,
mais on sait que tout être humain a une capacité d'adaptation et une capacité de survie qui nous surprend parfois quand on voit ce qui se passe dans la rue à Paris. Et quelque part, les femmes, les enfants, les mineurs ont malheureusement été contraints de s'adapter à la rue avant les interventions, en fait.
Une mini précision, il y a un deuxième centre qui va s'ouvrir dans le sud de Paris, qui est un peu en retard pour des raisons de construction, etc., mais qui sera uniquement pour les publics fragiles, femmes, familles et mineurs isolés.
Bonne nouvelle.
des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous cet après-midi pour évoquer cette question de l'intimité et de la vie privée dans des situations de précarité. Julien Belair, ouverture du centre Porte de la Chapelle, à peu près à quelle
mi-octobre.
Mi-octobre. Et donc, sud de Paris.
Sud de Paris, je ne sais pas, mais dans 2-3 mois, je crois.
Dans 2-3 mois. Vous serez attentive à tout ça, j'imagine, Évangeline. Peut-être on peut lire ce rapport à propos des mineurs isolés en ligne.
Sur le site de l'UNICEF France, oui.
Merci beaucoup. Quant à vous, Faisal, vous allez continuer, j'imagine, ces maraudes à Paris, en région parisienne. On renvoie vers le site d'Entraide Citoyenne.
Oui, pour les dons et pour une participation sans engagement.
Et quant à vous, Louise, sansa.fr, c'est à lire avec ce dossier qui court jusque quand, l'intimité dans la rue ?
À peu près mi-octobre, donc, c'est-à-dire des productions audiovisuelles écrites sur l'intimité dans la rue à 100-a.fr.
100-a.fr. Merci beaucoup. Merci.
France Culture présente Showgirls de Paul.
Les nouvelles vagues, c'est terminé. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour continuer à échanger avec vous, Twitter, Facebook, mais aussi bien sûr franceculture.fr. Tous les moyens et supports sont bons pour réécouter les podcasts et les faire circuler. Ne vous en privez pas. Merci beaucoup à Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui, c'était Jérémy. Pas du tout. Dans un instant, la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange. À demain.